On a un verset dans les psaumes, psaume 42, verset 4. Je me souvenais de ces choses. Je répandais mon âme au-dedans de moi, comment j'allais avec la foule. Je m'avançais en leur compagnie avec une voix triomphe et de louange, jusqu'à la maison de Dieu, une multitude en fête. On a là l'émotion de quelqu'un qui se souvient. Ah, du temps où on allait à la fête. Et sûrement que les plus anciens d'entre nous se souviennent. Ils ont vécu des fêtes aussi, avec leurs frères et sœurs, des moments forts. Et on essaye en cette journée d'avoir aussi un peu une fête, bien sûr. Mais notre Dieu est un Dieu qui nous invite, un Dieu de fête. Et il y a un autre verset dans Lamentation 1, verset 4, Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, les chemins de Sion, verset 4, 1, verset 4, les chemins de Sion mènent deuil de ce qu'il n'y a personne qui viennent au fait. Toutes ces portes sont désolées. Il n'y a plus personne qui vient au fait. Il n'y a plus beaucoup de conférences dans les pays francophones, comme aujourd'hui. Voilà. Alors, ça peut nous rendre tristes, et puis on peut aussi s'encourager les uns les autres. Et il y a un beau verset dans Zacharie, pour s'encourager. Zacharie, chapitre 8, verset 20. C'est une promesse pour le futur. Zacharie 8, 20. Ainsi dit l'Éternel des armées. Encore une fois, il viendra des peuples et des habitants de beaucoup de villes. Et les habitants de l'une iront à l'autre disant, allons, allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel des armées. Moi aussi j'irai. Moi aussi j'irai. Voilà, si on s'encourage les uns les autres. Et il y avait quelqu'un qui va dire, alors, moi aussi j'y vais. Parce que Dieu est un Dieu qui rassemble. Alors c'est vrai pour une réunion d'enseignement, un dimanche, une réunion du soir, c'est vrai pour une réunion de semaine, s'encourager les uns les autres, c'est vrai pour une conférence comme aujourd'hui, c'est vrai pour tant d'occasions, on a un Dieu qui nous invite, et on peut mener deuil parce que on se souvient de ces fêtes, j'allais avec la foule, et puis les chemins mènent deuil, il n'y a plus personne qui vient, mais je peux encourager les autres, et alors moi aussi j'irai.
J'aurais peut-être revenir sur Néhémie 8. Quand le début de ce chapitre commence, le peuple se rassembla comme un seul homme. Ah, ici, ils sont allés. Et puis, ils se rassemblent à la porte des eaux. On se souvient que dans la parole de Dieu, les eaux nous sont présentées comme la parole de Dieu nous est présentée, ou l'image de la parole se trouve dans les... J'arriverai pas à le dire. Les eaux sont une image, l'eau est une image de la parole de Dieu. Et l'eau vive est une image de l'Esprit de Dieu qui applique la parole de Dieu vivante au cœur et aux consciences. Alors, ils se rassemblent à la porte des eaux, qui ne demande qu'à s'ouvrir cette porte pour que les eaux coulent, et qu'il y ait la vie qui coule. Alors la parole de Dieu, elle va, c'est donc le premier jour du septième mois, cette parole de Dieu, devant la porte des eaux, elle va être lue au verset 3. Et puis le peuple qui a soif, il va l'écouter. Tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi, à la fin du verset 3. La parole de Dieu est écoutée. Et au verset 5, on se lève pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est respectée. Et au verset 6, alors on lit la parole de Dieu dans la présence de Dieu. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, Amen, Amen. Au verset 7, la parole de Dieu est expliquée. Et elle est expliquée distinctement. On la fait comprendre, on en donne le sens, il y a de l'application. Et au verset 9, alors, puisqu'on est venu dans ces dispositions, la parole de Dieu est reçue et acceptée. Et la conséquence, eh bien, des fruits, il y a la joie dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi autre chose. Il y a comme le fruit de l'esprit qui est manifesté, au verset 10, on prend des portions pour les envoyer aux autres. C'est de l'amour qui est manifesté, on transmet. Et puis il y a la joie, qui est aussi un fruit de l'esprit. Et puis, il y a aussi, on a été un peu déstabilisé par la parole de Dieu, ça a touché nos consciences. Il y a le peuple qui pleure parce qu'on dit, ah, on a désobéi, mais on va tranquilliser, il y a la paix qui est produite. Alors les effets de cette lecture de la parole de Dieu reçue, parce qu'on s'est rassemblés pour recevoir ensemble à la porte des eaux, sont extrêmement magnifiques. Et on pourra peut-être lire tout à l'heure un peu la suite, pour revenir sur la suite dans ce chapitre, ton frère Frédéric Feller en a parlé, sur la réalisation de ce qu'a été alors, dans cette période, la fête des tabernacles.
Encore une fois, quelques considérations générales sur la notion, le concept de fête. Il y a, à côté de tout ce que l'on a dit, bien sûr, l'idée de rupture avec le quotidien, de rupture avec le travail. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de nos jours? Moi, je me souviens d'une expression qui n'est plus beaucoup utilisée, que les jeunes peut-être ne comprendront pas, c'est l'idée de s'endimancher. On s'endimanche ce jour-là. On met un habit qui sort un peu de l'ordinaire. C'est banal, mais ça marque l'idée de rupture. Et puis, on va au culte, à la réunion avec ses parents. Et je me souviens d'une remarque que m'avait fait une fois un ami égyptien. Il m'avait dit, tu vois, le dimanche, c'est comme un cerceau. Le cerceau, on lui donne une impulsion. Alors, il va rouler. Mais si on ne lui redonne pas une impulsion. Alors il va vaciller ici et là, puis il va tomber. Alors il faut lui redonner une impulsion pour qu'il reprenne à la fois de la vitesse et de l'équilibre. On a là l'image de ce que représente la fête. Aussi bien pour nous le dimanche, où de dimanche en dimanche, nous reprenons des forces spirituelles, nous nous exhortons mutuellement, nous voyons le Seigneur, et nous retrouvons la force de faire les 6 pas qui suivent. Donc il y a cette idée-là. Et puis, je pose une question, mais bon, c'est vrai que nous sommes assez peu portés sur ce qu'on appelle la liturgie que l'on retrouve par exemple chez les catholiques. Les catholiques ont une liturgie annuelle. Ils ont des temps forts. On n'en a pas parlé, bon, je ne sais pas si c'est le moment ou le lieu, mais enfin, je voudrais le rappeler quand même. Ils ont des semaines, ils ont des périodes, une périodicité qui les amène à entrer dans une spiritualité particulière. Alors, les protestants n'aimaient pas trop ça. Leur côté austère, anti-festif, avec des fois les débordements et tout ce que cela représente, ont fait que très vite, ils ont abandonné les fêtes. Bon, il y a quand même, le Noël et puis Pâques. Quand même, tout le monde conviendra que ce jour de Noël, je me souviens chez moi, le repas sortait un petit peu de l'ordinaire. On marquait quand même le coup. Mais on a laissé de côté tout cet aspect de calendrier liturgique auquel nous ne voulons pas, parce que pour nous, on l'a rappelé ce matin, c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Et du coup, nous oublions peut-être ce qu'est ces préparations, ce temps de préparation. Sans vouloir bien sûr soulever trop de vagues, je trouve que parfois, quand on est amené à fréquenter des familles catholiques, on voit ces temps de préparation mis à part, où de jour en jour, de semaine en semaine, ils s'acheminent vers ces temps forts que représente bien sûr Pâques en particulier, avec aussi bien sûr tous les débordements. Ce n'est pas dans notre culture, on va dire, chez nous, ce n'est pas dans nos habitudes. Mais des fois, peut-être, on passe à côté de quelque chose.
Ceci dit, ça peut être une arme à double tranchant, parce que, pour l'avoir vécu récemment avec des amis catholiques, nous étions réunis pour un repas du soir le vendredi saint, et nous ne faisions pas attention à certaines prérogatives catholiques. Un catholique pratiquant ne mange pas de viande ni le mercredi des cendres ni le vendredi saint, et la remarque a été venue dans le sujet de la conversation. Et nous leur avons préparé un repas avec du poisson, mais finalement je leur ai demandé, mais pourquoi ne mangez-vous pas de viande le vendredi saint? Mais ils l'ignoraient totalement. Donc c'est vrai que le temps de préparation donne un certain caractère solennel à une certaine religiosité, je dirais, mais je crois qu'il n'y a pas plus d'engagement spirituel que cela, et ils font les choses parce qu'on leur a dit depuis des générations de les faire comme telles, mais l'arrière-plan est tout à fait ignorant et c'est dommage.
Il est bon que chacun corrige ses excès. Et donc les nôtres sont peut-être un peu trop de mysticisme, enfin une conception peut-être un peu individuelle de la relation avec Dieu et un peu théorique, abstraite. Alors effectivement, on a peut-être à retrouver un aspect collectif plus fort, et aussi des gestes forts, des bonnes habitudes, je dirais. Et il me semble que un danger actuel, c'est, je dirais, un peu de s'arrêter à la Pentecôte et de ne pas aller jusqu'à la fête des trompettes. C'est-à-dire qu'on croit à l'unité de l'Église, produite par le Saint-Esprit, c'est beau, c'est merveilleux. Et puis, bon, on néglige un peu de le vivre pratiquement, régulièrement, avec assiduité, de se réunir avec des croyants. Donc je crois qu'il faut... Il y a ce verset des Brebis qui nous dit « N'abandonne pas le rassemblement de vous-même ». Il ne faut pas que ce soit une loi, mais c'est quand même un acte naturel du chrétien. La foi chrétienne est faite pour être vécue en groupe. Il y a une relation individuelle avec Dieu qui doit être vivante, mais ensuite elle est partagée aussi. Et je pense que c'est important qu'on ne tombe pas dans le piège de l'individualisme. Bon, alors évidemment, c'est toujours quand on prêche l'assiduité, le problème c'est que ceux qui auraient besoin de l'entendre ne sont jamais là. Donc si vous êtes là, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc je vous dis, continuez.
Pour quelques instants, à ce concept de la fête, qui est excessivement important dans beaucoup de milieux chrétiens. Et on pourrait se demander, tiens, ben pourquoi chez nous n'avons-nous pas des fêtes carillonnées? Pourquoi ne nous rassemblons-nous pas tel jour, telle heure, pour fêter quoi que ce soit? Et il y a quelques versets dans la parole qui peuvent nous y aider. Tout d'abord dans l'épître de Paul aux Galates, Galates au chapitre 4,
et au verset 9, déjà à partir du verset 8, « Ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu, mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connu de Dieu, comment retournerez-vous de nouveau au faible et misérable élément auquel vous voulez encore, de rechef, être asservi ? Vous observez des jours, des mois, des temps, des années. Je crains, quant à vous, que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. » Voilà le piège dans lequel nous risquerions de tomber. Discutailler pour des temps, des mois, des semaines, quel jour, quelle heure, comment, avec qui. Colossiens chapitre 2, déjà lu ce matin, verset 16. « Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. » Jour de fête. Il n'y a pas de jugement à cet égard. Alors finalement, quand devons-nous célébrer la fête ? Le dimanche, bien évidemment, jour de grâce par excellence, puisqu'il nous rappelle la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, la sortie de la mort, l'ouverture de la vie éternelle. Mais personnellement, j'irai encore beaucoup plus loin. 365 jours sur les 365. Pourquoi ? Nombre 28, livre des Nombres, chapitre 28e, premier verset. « Commande aux fils d'Israël, dis-leur, vous prendrez garde à me présenter au temps fixé mon offrande, mon pain pour mes sacrifices par feu qui me sont une odeur agréable. » Verset 3, tu leur diras, « C'est ici le sacrifice fait par feu que vous présenterez à l'Éternel, deux agneaux âgés d'un an sans défaut, chaque jour, tous les jours. » Épître de Paul aux Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 15, « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu. » Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. D'une part, chaque jour, tous les jours, d'autre part, sans cesse, à chaque instant de chaque jour, plusieurs fois par jour, rester en liaison directe avec Dieu, tant individuellement que collectivement. Petite anecdote pour illustrer ce propos. Avant de partir, mon épouse est passée en face de l'école gardienne où se trouvaient nos deux petites nièces, parce qu'elles avaient oublié quelque chose dimanche dernier à la maison et mon épouse voulait leur rendre. Et en les quittant, à la fin de la récréation, il y en a une des deux, Juliette, qui dit à Michou, mon épouse, « Oh, quel beau jour, parce que je t'ai vu. » Eh bien, je crois que c'est comme cela que nous devons entretenir notre relation avec le Seigneur Jésus. Est-ce que nous le voyons tous les jours ? Est-ce que nous le voyons à chaque instant de chaque jour ? S'il en est ainsi, alors nous rentrons dans le plan de Dieu. Sa joie est grande, mais la nôtre aussi.
Encore la lecture d'un verset en rapport avec ce rituel que d'aucuns réalisent d'une manière scrupuleuse et auquel on semble ne pas porter beaucoup d'attention. Romains 14, le verset 5. « L'un estime un jour plus qu'un autre jour, et l'autre estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Celui qui a égard au jour, y a égard à cause du Seigneur. Et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, ne mange pas à cause du Seigneur, et il rend grâce à Dieu. » Et alors, pour en revenir alors à notre passage lévitique, on arrive à cet dixième jour du septième mois, au verset 26e, ce qui nous ramène peut-être à Lévitique 16, où le rituel est bien mentionné avec précision, il y avait quelque chose à respecter scrupuleusement. Mais alors, au chapitre 16 du Lévitique, le premier verset nous dit ceci. « L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Lorsque, s'étant approchés de l'Éternel, ils moururent. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, ton frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint au-dedans du voile devant le propitiatoire. » Devant qui est sur l'arche afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Est-ce que ceci ne nous dit pas quelque chose ? Est-ce que la routine à laquelle on pourrait se soumettre, ce sera peut-être une routine de tous les dimanches tout simplement, ou une routine de certains jours particuliers dans l'année ? Peu importe, si on les fait par routine, on tombe déjà dans le piège. Alors, pour éviter cette routine, qui a été rompue alors par la mort des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Dieu maintenant va mettre les choses bien au point pour ce dixième jour du septième mois, et tout le chapitre 16 du Lévitique nous donne le détail. Ce qui nous montre, d'une part, que ne pas tomber dans la routine, c'est réaliser ce que Dieu nous demande au jour juste, mais quand même aussi avoir cette spontanéité pour répondre à ce que dit l'Épître aux Hébreux, qui vient d'être cité par notre frère Pierre Blond, sans cesse, avoir un cœur qui soit prêt à rendre à Dieu la louange et la reconnaissance qui lui est due à tout instant, donc pas seulement une fois par jour, mais vraiment sans cesse. Et alors, tout en respectant ce que signifient les jours particuliers que Dieu a mis de côté. Et avec ce chapitre 16 du Lévitique, il se rapporte au 10e jour du 7e mois, donc le chapitre 23 nous parle depuis le verset 26 jusqu'au verset 32. Dans ce jour, il y a quelque chose qui est vraiment particulier, où il est dit « Vous affligerez vos âmes, aucune œuvre de service ». C'est un jour particulier qui doit nous mettre en... ouvrir nos cœurs et nos consciences, laisser la parole pénétrer dans nos cœurs et dans nos consciences. Elle a été lue selon le chapitre 8 d'Esdras, de Néhémie, elle a été lue au premier jour du mois, qui signifie donc ce rassemblement. Et maintenant, elle a produit dans nos cœurs un sentiment de deuil aussi, parce que nous n'avons pas réalisé ce que Dieu nous dit de réaliser. Nous n'avons pas vécu comme nous aurions dû vivre. Eh bien, qu'il y ait aussi cette contrition qui nous met en liberté devant Dieu pour lui dire ouvertement, bien, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été. Je te le confesse, je sais que tu me pardonnes. Eh bien, je te loue parce que le pardon a déjà été assuré par l'œuvre de Jésus.
On est étonné de la sévérité de ce verset 29 et 30. Car toute âme qui ne s'affligera pas en ce même jour sera retranchée de ses péchés. Et toute âme qui fera une œuvre quelconque en ce même jour, cette âme, je la ferai périr du milieu de son peuple. C'est le chapitre des faits. Jusqu'à présent, il n'y a encore pas eu trop de versets un peu durs comme ça. Et alors là, c'est étonnant. Et ça donne comme une solennité toute particulière à ce jour du Yom Kippour, ce jour du grand pardon, ce jour où effectivement le souverain sacrificateur entrait une fois par an avec le sang dans le lieu très saint. Donc c'était impossible de pas s'associer à cela, impossible de pas s'affliger, c'était vraiment chacun qui était invité. Mais alors il y a une interdiction absolue d'apporter des œuvres. Et donc c'est intéressant, c'est ces deux versets ensemble, c'est importance absolue d'une purification et une interdiction totale de faire des œuvres. On a vécu le réveil, il y a eu la trompette, alors on est réveillé, on est enthousiaste, c'est la jubilation, la joie, mais avec un réveil vient un moment de solennité, un moment de confession aussi, de pourquoi je m'étais endormi, mais tout est grâce. La problématique de la réforme, hein, de Luther, c'était ça, c'est comment peut-on être purifié ? Pas d'œuvre. Hein, les deux sujets ensemble. La purification, absence absolument d'œuvre pour être purifié. La purification est sur la base du sang versé. Et le problème, c'est que même quand on a bien compris ça, par exemple pour son salut, après on l'oublie évidemment dans la vie. On retravaille un peu au mérite. On pense qu'on peut quand même... on est tombé, on s'est relevé peut-être, mais quand même, si on pouvait compenser, je fais quelque chose de mal, je peux peut-être compenser. Enfin, toujours des œuvres. Hein, on raisonne beaucoup facilement au mérite ou aux œuvres. Et c'était absolument interdit. Le légalisme, hein, le fait de se fixer des règles, d'essayer de les accomplir, ça c'est totalement exclu, sévèrement exclu dans notre chapitre.
Une autre remarque concernant cette fête, en lisant un verset qui a été mentionné ce matin, mais je ne crois pas qu'il ait été lu, c'est dans Deutéronome, au chapitre 16 et au verset 16. Je crois que notre frère Freddy l'a mentionné ce matin, mais je ne crois pas qu'on l'ait lu. Pour parler, quand il nous a dit ce matin qu'il y avait trois fêtes qui étaient obligatoires et que la fête centrale, c'était la fête de Pentecôte. Alors en fait, c'est ce qu'on trouve dans ce verset-là, Deutéronome 16, verset 16. « Trois fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. » Alors quels étaient ces trois rendez-vous obligatoires ? « À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. » Donc il n'y a pas celle dont on parle tout de suite, c'est-à-dire la fête de la propitiation, ou plutôt le jour des propitiations. Et tout au contraire, à la fin du verset 31, on lit « C'est un statut perpétuel en vos générations,
dans toutes vos habitations. Alors il y a des choses qui se passent dans le secret du cœur. Si je me souviens de la peine que le Seigneur a dû endurer pour mes péchés, moi personnellement, ça je ne peux pas le partager avec les autres. C'est dans le secret du cœur, entre le Seigneur et moi, je suis affligé dans mon cœur en me souvenant combien il a dû souffrir pour moi. Et puis il y a d'autres fêtes, il y a d'autres moments que l'on peut partager ensemble, où on peut exprimer aussi sa joie ensemble, parce que le Seigneur nous a pardonné. Mais il y a obligatoirement, pour revenir sur le concept de rupture dont on parlait tout à l'heure, il y a obligatoirement dans sa vie des moments cycliques. Ici, c'est présenté de manière annuelle, peut-être que le cycle il n'est pas le même pour tout le monde, mais il y a des moments où il faut revenir sur soi-même et il faut se souvenir du prix qui a été payé pour que nous soyons sauvés, comme dit une épître, n'oubliant pas la purification des péchés d'autrefois.
On ne peut pas justement faire positivement le rapprochement de ce jour donc qui nous est donné, ce jour des propitiations, qui est donc enseigné, enfin qui est donné dans Lévitique 16, avec notre période d'aujourd'hui. On en vient d'en parler, mais le Seigneur Jésus là-dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Et alors il faut aller un petit peu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, pour faire le lien avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a dit qu'un jour par an, le sacrificateur, le grand prêtre, traversait donc le parvis, aller dans le lieu saint jusqu'au lieu très saint avec le sang d'un animal, et il posait ce sang sur l'arche, le propitiatoire. C'est bien cette fête dont il est question ici. Et là, ce sang restait là une année, et pendant cette année, Dieu, en voyant le sang, couvrait les péchés du peuple. C'est bien comme ça que l'enseignement est donné dans l'Ancien Testament. Et puis, l'année suivante, il fallait recommencer ce service très sérieux, difficile. La preuve, c'est que voilà, les fils d'Aaron sont morts parce qu'ils n'ont pas fait comme il faut. Et puis tant d'autres sont certainement morts parce qu'ils n'ont pas fait comme il fallait. Mais voilà que dans le Nouveau Testament et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est parlé du Seigneur Jésus qui va faire cette chose-là, et non pas dans une tente, un tabernacle fait avec la main, hein, avec des matériaux visibles, mais au verset 11 chapitre 9 des Hébreux, au verset 11, mais Christ étant venu souverain sacrificateur ou souverain prêtre des biens à venir par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption annuelle, non, éternelle, une rédemption éternelle. Et nous voyons avec le verset 14, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, la loi, les œuvres que l'on fait peut-être pour acquérir, hein, cet salut, pour que vous serviez le Dieu vivant. Voilà donc le Christ qui a traversé, qui est entré dans les lieux saints, c'est-à-dire un autre verset d'Hébreux nous annonce qu'il a traversé les cieux, mais qui veut nous parler des différents endroits qui étaient saints l'ancienne période, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint pour arriver jusque dans le lieu saint, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu, parce que la nuée, la présence de Dieu était concrétisée là sur l'arche. Et là, c'est ce que veut dire ce texte. Donc le Seigneur Jésus est entré là, une fois pour toutes, il a obtenu une rédemption éternelle. Ce qui veut dire que celui qui confesse ses péchés, et on revient à Lévitique 23, pourquoi c'était aussi à pleurer ce jour? Parce que dans Lévitique 16 et au verset 21, il y a donc un moment particulier où Aaron, qui est donc aussi une figure, une image du Seigneur Jésus, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit que le Christ donc est plus grand que Aaron, donc qui accomplit le même office mais bien mieux, posera ses deux mains, verset 21, sur la tête du bouc vivant qui va servir de substitution et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela, et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée, et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Mais ces iniquités, ces transgressions, comment il les connaissait? Il fallait que les Israélites aillent voir Aaron. J'ai fait ça. Et chaque acte mauvais mérite la mort, mais là de ce bouc, mais de notre Seigneur. Et on comprend après ce que Daniel nous disait tout à l'heure qu'il y a de quoi pleurer quand on est à ce moment particulier. Mais c'est un moment nécessaire. On ne peut pas avoir une vie chrétienne rayonnante s'il n'y a pas une confession, une vraie confession dans notre vie. Pas une fois par an, on a dit, mais chaque moment, chaque jour. Et à ce moment-là, c'est le début du retour. C'est le début d'une vie rayonnante, vraiment riche de joie avec le Seigneur quand on a une vie de confession, une vraie confession. Et c'est vrai que d'un côté, il y a de quoi pleurer, mais quel résultat, hein? La communion retrouvée avec notre Seigneur, avec notre Dieu et Père.
Bien affirmé, donc, que ce grand jour des propitiations est une image de la communion retrouvée avec Dieu par la confession des péchés, parce qu'on la trouve très loin de la Pâque. La Pâque, c'est beaucoup plus fondamental, c'est éviter le jugement. Donc la Pâque est une image un peu de la conversion. Si on reprend tout le cheminement du Juif qui sort d'Égypte, donc il célèbre la Pâque avant la sortie d'Égypte, image de la conversion, l'acceptation du sacrifice. Ensuite, il passe à travers la mer Rouge, image du baptême. Et ensuite, régulièrement, il va célébrer un souvenir de la Pâque, une fois par an, qui va être un peu comme pour nous la scène qui rappelle ce sacrifice, donc qui affirme notre foi dans le sacrifice de Christ. Mais aussi, il va célébrer ce jour des propitiations qui va parler d'autre chose, même s'il y a toujours l'idée du pardon dedans, hein, qui va parler plutôt de le fait de confesser nos fautes, parce que dans notre vie chrétienne, eh bien, nous allons continuer à en commettre, et donc nous avons simplement besoin, non pas d'être délivrés du jugement cette fois, nous le sommes une fois pour toutes, par la Pâque, donc par la conversion, mais simplement, on a bien lu dans Hébreux, d'être purifié dans notre conscience. Le sang de Christ purifiera votre conscience. Donc c'est plutôt un lavage de la conscience qui nous permet de retrouver la communion, la liberté, la joie de la relation avec Dieu. Donc c'est ce dont nous parle le jour des propitiations.
Il nous a été rappelé que la parole de Dieu ne s'interprète pas par une imagination débordante, mais que la parole de Dieu s'interprétait d'elle-même. Exemple rappelé ce matin, la Pâque, 1 Corinthiens 5, Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Pour la propitiation, il y a deux versets du Nouveau Testament qui confirment que Christ est notre propitiation. 1 Jean 2, verset 2, lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Et 1 Jean 4, 10, en ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Donc la fête des propitiations, la clé de cette fête, elle est là. C'est Christ. Christ qui est la propitiation et qui en même temps est le propitiatoire. Dieu a un regard de nouveau propice en regardant au travers de l'œuvre de son Fils à Golgotha ce que l'homme peut produire. Et seuls ceux qui confessent leurs péchés peuvent s'approcher librement de Dieu. Alors il y a les trompettes qui nous réveillent, parce que notre conscience peut être cautérisée ou endormie. Il y a les larmes de la repentance, on s'humilie, on prend beaucoup de peine de voir les dégâts que l'on a commis, et de cela aussi les questions dans le Nouveau Testament. La trompette peut être éventuellement assimilée à une discipline. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de discipline au chapitre 10. Discipline de la part de qui? De la part de Dieu qui pour nous est un Père. Hébreux 12, verset 11. Aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie. C'est bien pourquoi il faut pleurer. Mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est pourquoi redresser les mains lassées, puisque c'est peut-être l'état de l'Église chrétienne aujourd'hui. Redressez les mains lassées et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse. Combien de fausses doctrines, combien de sectes qui pullulent autour de nous, en affirmant des choses extraites de la Bible, des versets bibliques tronqués, des choses dévoyées, des choses tronquées. Mais il faut en revenir à celui qui est la propitiation pour les péchés, il faut avoir sa conscience réveillée par la trompette, il faut confesser ses fautes, il faut revenir dans le droit chemin. Et peut-être que Dieu, parfois, doit intervenir par discipline. Un autre passage, puisque le but du livre du Lévitique, finalement, c'est de s'approcher de Dieu, en sainteté, en liberté. Dans l'Épître aux Hébreux aussi, les questions de pouvoir s'approcher de Dieu, le fameux passage d'Hébreux 10, « Approchons-nous, frères, par le sang de Jésus. » Mais si nous lisons jusqu'au bout, verset 23, Hébreux 10, 23, « Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. » Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Voilà une conscience individuelle, pleurer sur les fautes personnelles, privées, une conscience collective dans le cadre de la famille, mais une conscience aussi dans le cadre de l'Assemblée. Et comment résister à cet abandon du rassemblement de nous-mêmes? Comment résister à cette lassitude? Comment résister à cette routine, parfois, de se dire « Oh, c'est encore tel frère qui est à la réunion, il m'embête un petit peu, je n'y vais pas. » On entend dire cela dans nos familles, hélas. Excitons-nous à l'amour et aux bonnes œuvres. Revenons à l'essentiel. Repositionnons-nous sur le Seigneur Jésus. Mettons dans la balance le poids des souffrances endurées à la croix pour nous, et réalisons le peu, finalement, qu'il nous demande. Et comme nous le chantons parfois, pour un si grand amour, que pouvons-nous apporter?
Frédéric a soulevé ces versets, signalé ces versets 29 et 30, qui sont extrêmement sévères, mais est-ce que Dieu peut être satisfait si nous voulons compléter l'œuvre de Christ par des œuvres méritoires, même pour retrouver la communion avec lui? La grâce n'est plus la grâce, et l'œuvre de Christ n'est plus suffisante s'il nous faut ajouter quelque chose pour mériter le pardon. Et c'est peut-être là quelque chose dont nous ne mesurons pas, dans un sens, la gravité, si nous pensons pouvoir gagner quelque chose, non seulement pour le salut, mais aussi pour retrouver la communion avec le Seigneur. Si nous avons péché, Dieu dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Lui est fidèle et juste, et ce n'est pas moi qui vais ajouter quelque chose. Il y a aussi un enseignement qui court parmi les enfants de Dieu, c'est quant au salut, c'est il faut croire au Seigneur Jésus, et il faut être fidèle jusqu'au bout pour être sauvé. Autrement dit, si au cours de ma vie, je me suis éloigné du Seigneur, et puis voilà, j'ai un accident de la route, et je meurs alors que je me suis éloigné du Seigneur, je ne suis plus sauvé. Et alors, qu'est-ce que c'est qui m'a sauvé? Est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur ou c'est ma fidélité? Si c'est ma fidélité qui a le dernier mot, c'est ma fidélité. Et c'est quelque chose qui est grave, parce que on enlève quelque chose de la valeur, on enlève de la valeur à l'œuvre du Seigneur, et aussi, si on a cet enseignement, qu'on a entendu cet enseignement, comment être paisible devant Dieu? Ce n'est pas possible. Alors, il y a ici cette œuvre, ce grand jour des propitiations, dont le but est quand même le pardon. Et quand on revient à l'Épître aux Hébreux, après le chapitre 9, où il est question de ce grand jour et de l'application aujourd'hui, eh bien la parole de Dieu nous dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il y a cette affliction, il y a cette confession, et que ce soit pour un péché, pour le salut de nos âmes, ou que ce soit pour un péché que nous avons commis en nous éloignant du Seigneur alors que nous sommes au Seigneur, il dit « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Et là, le but de Dieu en nous faisant passer par ce chemin-là, c'est de nous faire prendre conscience de la gravité de notre péché, en nous montrant la grandeur de l'œuvre de Christ qui a souffert pour effacer, pour porter ce péché, et puis ensuite pour que nous comprenions, que nous recevions d'une façon réelle, profonde, joyeuse, son pardon.
Le Seigneur dit en Jean 13, illustre très très bien ce principe, cette différence entre justification, c'est-à-dire être justifié vis-à-vis du jugement, et purification, qui indique une sanctification, mais sans enjeu de vie ou de mort. Dans Jean 13, le Seigneur le dit d'une manière illustrée, en disant, verset 10, « Celui qui a le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net, car vous êtes net. » Donc, une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus, on est net, on a le corps lavé, on est propre pour la présence de Dieu, Mais ensuite, bien sûr, dans la vie chrétienne, on va marcher, et donc on va se salir les pieds. Mais ce n'est pas le corps entier qui se salit, ça ne remet pas en question notre propreté vis-à-vis de Dieu, simplement les pieds sont souillés, alors il faut purifier. Et je crois que ça résume bien la situation. On est justifié une fois pour toutes par la foi au Seigneur Jésus, et ensuite on a quand même besoin, par la confession des fautes, en reconnaissant nos fautes, d'être purifié des péchés que nous pouvons commettre dans le chemin du croyant.
Au fond, le but de Dieu, bien sûr, c'est que nous soyons des chrétiens heureux. Mais notre joie est souvent bien éphémère, parce que si ici il y avait ce temps qui s'est écoulé entre la Pentecôte et cette fête de trompettes, on sait que dans l'histoire de l'Église, il y a eu un déclin. Et ce déclin-là, nous ne pouvons pas en douter, nous ne pouvons pas l'éviter. Il est là, il est éclatant à nos yeux, je vais dire ainsi. Mais est-ce que je vais mener une vie insouciante? Est-ce qu'on va dire, ben voilà, nos péchés ne sont plus, le Seigneur est mort pour nous, dans tous les motifs d'être heureux? C'est vrai, parce que le Seigneur le dira. Même Jean le baptiseur dira, ma joie est accomplie, dira-t-il. Il avait vu le Seigneur, sa joie était accomplie. Et on sait qu'à 7 reprises dans la parole, il est parlé d'une joie accomplie. Je ne vais pas la développer ici, mais c'était la pensée de Dieu, c'est que nous soyons joyeux. Mais on est curieux de voir que 10 jours, c'est par ces 2 fêtes. Alors si d'un côté, nous pouvons nous réjouir avec le Seigneur, l'apôtre le dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est une fête continuelle pour nous, pour un chrétien. Mais il y a ce sentiment que nous devons prendre sur nous ainsi le déclin de l'Église. Nous devons penser et voir comment ce qu'est devenu l'Église, et on pense au prophète âgé qui au fond a sonné des trompettes en ce temps-là, en encourageant le peuple et en leur disant au chapitre 1er et au verset 5, considérez bien vos voix, à 2 reprises, au verset 7 aussi, parce que ils s'occupaient de leur maison, ils s'occupaient plus de la maison de l'Éternel. Et âgé les invite ainsi à considérer leur voix. Donc il faut d'abord, pour que la joie réelle revienne, et il faut d'abord se mettre devant Dieu et réaliser que nous avons manqué. Alors à ce moment-là, la joie peut revenir. Et au fond, une assemblée doit aussi s'humilier, parce que souvent on n'aime pas beaucoup l'humiliation. Mais si nous voulons être heureux, que ce soit en assemblée comme en particulier, il est bon d'avoir cette fête des propitiations, où, comme il vient d'être dit, ce qui est porté dans le lieu très saint, Dieu est propice à son peuple pour l'année, et il désire ainsi leur donner la joie et la paix.
Extraordinaire que cette joie soit proposée justement après la purification, retrouver la communion avec Dieu et avoir le droit après d'être joyeux. Et c'est tout à fait le sens de cette fête des tabernacles, qui est maintenant extrêmement liée à l'autre. Jour des propitiations, 10e jour du mois, et 5 jours plus tard, une fête, une vraie fête familiale, une fête des tabernacles. Le proverbe 24, le juste tombe 7 fois et se relève. Et notre frère M. Feller a cité ce matin ce psaume 51, David, après avoir commis l'adultère, provoqué le meurtre de Uri, et au fond par cela menti, et ensuite couvert la faute. Quand enfin il arrive à son jour des propitiations, quand enfin il retrouve la communion, eh bien, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront vers toi. Voilà, c'est même possible d'être de nouveau utilisé à un service. C'est incroyable, ça. On se relève de ses fautes, de pouvoir, d'avoir le droit d'être, on va dire, comme normal, d'avoir droit d'être là, sous les cabanes de la fête des tabernacles. Ça, c'est très étranger à notre conception du mérite. C'est très dur de se dire tout vient du Seigneur, mais après, l'avantage, c'est que, eh bien, si je me relève de ma faute, eh bien, je peux être pris comme avant et me réjouir comme avant.
C'est bien ce qu'a pu vivre Pierre quand il allait renier le Seigneur et il savait pas encore. Dans Luc 22, le Seigneur Jésus lui dit, verset 31, « Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, que tu ne doutes pas finalement. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » C'est vrai que la suite de cette vie de Pierre montre que le Seigneur a tambouriné dans son cœur, si on peut dire, après. C'est vrai qu'il a beaucoup pleuré, Pierre, mais après ces 3 questions, « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu ? » Sois le berger de mes agneaux, de mes brebis, paie mes brebis. Et quand on lit la lettre qu'il a écrite, Pierre, et Qu'est-ce qui nous est dit de lui qu'est-ce qu'il dit à la fin? Voilà, moi qui suis ancien avec d'autres. Qu'est-ce qu'il a finalement? Et le secret du fait qu'il soit berger des autres, qu'il puisse être celui qui prend soin des autres, qui donc peut servir, hein, comme Frédéric nous disait. Eh bien, dans cette épître au chapitre 5, il dit « Moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui est aussi épars à la gloire qui va être révélée. » Et c'est le troupeau de Dieu. Témoin des souffrances. Il a été vraiment témoin, mais il a été aussi conscient de l'amour dont le Seigneur l'a aimé à ce moment-là particulièrement. Et alors, c'est vrai, cela a permis une restauration complète, un retour complet, une communion retrouvée et un service parfait.
Il est venu taper sur l'épaule de Pierre quand il a dit aux Juifs « Vous avez renié le Saint et le Juste ». Personne n'est venu lui taper sur l'épaule en lui disant « Et toi Pierre, qu'est-ce que tu as fait ?» Pourquoi ? Parce que il faut savoir aussi reconnaître le travail de Dieu dans son frère. Et quand le travail de Dieu est fait, il est fait. Je n'ai rien à ajouter. Pierre peut aussi alors à la fin de son épître parler du Dieu de toute grâce et dire la grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Et la vraie grâce de Dieu, ce n'est pas fermer les yeux sur ce qui ne va pas, mais c'est guérir ce qui ne va pas et le guérir complètement et le guérir à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus et du travail de l'Esprit de Dieu dans la conscience et dans le cœur.
Avec la fête du tabernacle à laquelle on vient, donc c'est la dernière, il est insisté sur la joie. Les six fêtes précédentes ne la mentionnent pas spécialement, sinon que c'est une fête. Bien sûr, ça donne idée quand même de joie avec le côté festif. Mais dans la fête des tabernacles, c'est vraiment la joie. Et Deutéronome insiste particulièrement en disant « Tu ne seras que joyeux ». C'était un souvenir de la traversée d'Égypte, la traversée du désert après la sortie d'Égypte. Un souvenir qui devait être mis en évidence, et c'est Deutéronome 8 qui insiste là-dessus, pour ce que Israël avait éprouvé des soins de l'Éternel. Tu te souviendras, tu as eu des difficultés, mais Dieu t'a aidé, l'Éternel t'a conduit, il n'a pas permis que ton pied ne s'enfle, il n'a pas permis que tes vêtements s'usent. Il s'en était peut-être pas rendu compte qu'il n'avait pas besoin de raccommoder. Eh bien, il fallait s'en rappeler, et avec reconnaissance. Et alors, cette fête des tabernacles est instituée justement pour que ce souvenir soit remémoré d'année en année. Et vous ne serez que joyeux. Mais certainement, parce qu'on n'aura pas certainement beaucoup de temps d'aller dans des détails, faut venir au huitième jour et en Jean 7 pour avoir la signification profonde de cette fête des tabernacles et de ce qu'elle est pour nous dans la pratique. Jean 7, il faut inviter d'autres à se réjouir avec nous. Et c'est peut-être le résumé succinct de cette fête des tabernacles. C'est les paroles du Seigneur en Jean 7, verset 37. « En la dernière journée, la grande journée de la fête, c'était donc ce huitième jour qui était comme ajouté aux sept autres, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Or, il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus annonce par anticipation, en quelque sorte peut-être que quelques mois en avance, ce qui se passera à la Pentecôte. Mais c'est l'accent mis alors sur lui-même, celui qui croit en moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est Jésus. L'Évangile, ce n'est pas une théorie. L'Évangile, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une personne. Il est lui la bonne nouvelle. Il est ce qui la concentre totalement. Eh bien, que notre témoignage, alors, pour montrer cette joie qui est la nôtre et pour pouvoir la communiquer à d'autres, y inviter d'autres aussi, soyons comme le Seigneur pour dire, eh bien, pour dire après lui, celui qui croit en Jésus, qu'il vienne à lui, qu'il boive, qu'il sera pleinement satisfait et il y aura même une bénédiction qui découlera de son témoignage pour tout son entourage. Les fleuves d'eau vive couleront de son ventre.
Alors vous imaginez tous à prendre
une semaine par année, à vous mettre sur votre balcon, dans le jardin, sous des cabanes, ou bien sous tentes. C'est extraordinaire, quand même. Imaginez ce que c'était que cette fête. Tabernacle, c'est une cabane, la fête des cabanes. Alors, on va construire des cabanes, on va prendre des belles branches, là, on a lu, et on va habiter pour finalement se souvenir de la grâce de Dieu dans le chemin. Se souvenir de son aide, se souvenir de ce temps du désert, voilà. Tout ce côté-là. Et c'est très pratique, finalement, c'est très physique, hein. C'est le souvenir par, voilà, je vais me mettre sous une tente pendant une semaine pour m'en souvenir. Et alors, ça fait penser à David. David est arrivé, était au pouvoir, il avait une belle maison. Et alors, pour lui, c'était évident, puisque moi, j'habite dans une belle maison, il faudrait que Dieu aussi habite dans une belle maison, donc je vais lui construire un beau temple. Et le prophète dit, oui, très bonne idée, formidable. Sauf que la nuit suivante, Dieu dit au prophète, non, c'est pas tout à fait comme ça. Un Chronique 17, cette nuit-là, un Chronique 17, verset 3, cette nuit-là, la parole de Dieu vient au prophète Nathan, il dit, mais va, dis à David, mon serviteur, ainsi dit l'Éternel, tu ne me bâtiras pas de maison pour y habiter, car je n'ai pas habité dans une maison. Depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'étais de tente en tente, de tabernacle en tabernacle, partout où j'ai marché au milieu de tout Israël. Ai-je dit un mot à l'un des juges d'Israël à qui j'ai commandé de paître mon peuple en disant « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Et maintenant tu diras à mon serviteur, etc. « Je t'ai pris des parts. » Non, 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 non. Tu ne bâtis pas une maison. Moi, je suis un Dieu qui marche au milieu de mon peuple. Mon peuple est sous tente ? Eh bien, je suis sous tente avec lui. Voilà le Dieu proche. Le Dieu proche de nous, dans nos circonstances, dans le quotidien. Je suis sous, mon peuple est sous tente, eh bien je suis sous tente avec lui, ce Dieu proche.
Je pense aussi aux fils d'Israël lorsque ils sont sortis d'Égypte, nous savons qu'ils ont traversé la mer Rouge. Il y a eu ce cantique qui a été chanté, où ça nous montre un éclat de joie, de la délivrance, qu'ils ont dû avoir opéré une grande délivrance pour eux. Et il est curieux de voir que Dieu va les conduire en un endroit qui s'appelle Mara, qui veut dire amertume. On a vu la propitiation, Israël doit réaliser que tout vient de Dieu, que si les eaux sont amères, il faut regarder vers l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Et il est beau de voir que, suite aux recommandations de Moïse, il dit « si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes l'oreille, si tu gardes tous ces statuts, je ne mettrai aucune maladie que j'ai mise sur le pays d'Égypte. » Et il a dit que puis il vint à Élim où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers campèrent là auprès des eaux. Est-ce qu'on peut pas voir en figure ainsi ces branches de palmiers qui donnent nombre et à ces rafraîchissements, ces 12 fontaines, on a comparé aux 12 apôtres qui apportaient ainsi de la part du Seigneur Jésus ces sources de rafraîchissement aux assemblées. 12 fontaines, 70 palmiers. Le peuple, maintenant, peut trouver le repos à l'ombre de ces palmiers. Mais ils ont été étrangers, nous n'avons jamais oublié que nous avons été étrangers, et nous avons à refléter ce caractère au milieu de ce monde, puisqu'il y a ces cabanes qui manifestent ainsi que le Seigneur le dira lui-même, ils ne sont pas du monde, que moi je ne suis pas du monde. Alors ces cabanes montrent ainsi qu'ils ont été étrangers, qu'ils ont été de lieu en lieu, c'est le souvenir de ce qu'ils ont été autrefois. Et ça, nous n'avons pas oublié ça, que nous sommes étrangers.
L'addition de toutes ces fêtes montre, comme on l'a rappelé, Deutéronome 16:16, d'une part, vous ne serez que joyeux, mais l'Éternel n'est que joyeux. L'Éternel, Dieu, est joie, et par Jésus-Christ, il nous communique la joie. Quel contraste et quelle tristesse à quelques centaines d'années d'écart de lire dans l'Évangile de Jean ce que finalement les Juifs ont fait de ce fait. 3 ou 4 versets simplement pour nous en rendre compte. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, premier verset, après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Ce n'est plus un jour solennel, ce n'est plus apparemment une sainte convocation, c'est devenu banalement une fête des Juifs. Au chapitre 6, au verset 4, celle qui était le point de départ de toute la joie, chapitre 6, verset 4, or la Pâque, la fête des Juifs, était propre. Était proche. Une fois encore, la tradition juive s'était appropriée cette fête, mais le cœur n'y était plus. L'esprit en était absent. Chapitre 7, on l'a déjà lu, verset 2. La fête des Juifs, celle des tabernacles. Celle où, en principe, on aurait dû arriver au paroxysme de la joie. Apparemment, plus beaucoup de joie, et le Seigneur de se révéler comme celui qui vient apporter de l'eau, et pas n'importe quelle eau, l'eau en abondance. Et puis on tourne encore une page, au chapitre 10, verset 22. La fête de la dédicace se célébrait à Jérusalem, et c'était en hiver. Tiens, une autre fête. Fête de la dédicace.
faut remonter dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous savons que le pays a souvent été un champ de bataille pour les armées étrangères, après les Assyriens et les Babyloniens, après les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, après les Grecs. Alexandre le Grand qui meurt très jeune, qui laisse un énorme empire à deux familles régnantes, les Ptolémées en Égypte et les Séleucides en Syrie. Et en 168 avant Jésus-Christ, Antiochus IV, Épiphane, fait quelque chose d'abominable. Lui, le roi syrien, vient à Jérusalem, il entre dans le temple, et pour se moquer de la sainteté de la religion juive, il égorge des porcs dans le lieu saint. Il y a un réveil, il y a une trompette qui résonne quand même, et il y a une famille juive courageuse, les Maccabées, Judas Maccabée, qui ne se laisse pas faire, qui prend les armes et qui réussit à remettre les choses plus ou moins en état. Et en 165 avant Jésus-Christ, il y a la dédicace du temple où les choses ont été apparemment renouvelées, remises en ordre, tout à la gloire et tout à la sainteté de l'Éternel. Et les Juifs avaient tenu ce jour-là comme un jour anniversaire. Et ils avaient inventé une nouvelle fête. C'est une huitième fête, en quelque sorte, mais que Dieu n'avait pas demandé et que Dieu ne respecte pas. Fête de la dédicace, et pour bien souligner l'aspect moral décadent du peuple, il est bien dit, c'était en hiver. L'hiver, dans une atmosphère glaciale des relations entre Dieu et son peuple. Il y a eu encore une autre fête qui a été ajoutée, nous le savons, la fête des Pourim, qui elle se déroulait en plein hiver, qui correspond plus ou moins à notre carnaval, suite à la délivrance du peuple juif par la reine, du temps du roi Assuérus, par la reine Esther. Au début, on s'envoyait des cadeaux, on s'envoyait des sorts, Pourim veut dire des sorts, et finalement c'était devenu une fête, encore une fête des Juifs. Mais le Seigneur ne les respectait aucunement. Alors on comprend le propos du peuple d'Israël ici en Jean 10. Il fête la fête de la dédicace. Je vous rappelle qu'il fête Judas Maccabée qui avait remis de l'ordre à Jérusalem. Il pense discerner en Jésus un nouveau libérateur politique, militaire. Il s'imagine que Jésus va prendre les armes pour mettre le Romain à la mer. Et c'est bien pour cela qu'il vient nous dire, mais finalement, dis-nous qui tu es. Verset 24. Si toi tu es le Christ, dis-le nous franchement. Et Jésus de leur répondre tout simplement, mais mes brebis écoutent ma voix, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle. Jésus transpose la libération sur un autre plan, non pas sur un plan nationaliste, politique ou militaire, mais sur un plan de la moralité, de la joie renouvelée auprès de Dieu, et c'est par ce chemin-là et par cette libération-là qu'il faut aller. Non pas quelqu'un qui a les armes à la main, mais des armes spirituelles pour nous rapprocher, pour nous réconcilier avec Dieu.
La fête des tabernacles, c'est aussi comme un aboutissement. C'est la dernière des fêtes. Il y a eu tout ce cheminement et il y a ce huitième jour qui est l'aboutissement de l'aboutissement, si on peut dire. Alors, c'est l'aboutissement du travail de Dieu dans le cœur. On l'a vu tout aujourd'hui, à partir de la Pâque jusqu'à la fête des trompettes et la fête des expiations. Mais aussi, c'est l'aboutissement du travail du croyant. Dans Deutéronome 16, il est dit au verset 13, « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu auras recueilli le produit de ton aire et de ta cuve. » Dans nos vies, il y a ce que nous allons recueillir du Seigneur Jésus, ce que nous allons recevoir de lui, ce que nous allons découvrir de lui, à la fois... Il n'est pas question ici du produit de ton champ, c'est pas des gerbes, ni du produit de ta vigne, c'est pas des raisins, c'est le produit de ton aire, c'est un travail qui est arrivé à son terme, on a le grain qui est prêt. Et puis d'un autre côté, le produit de ta cuve, le vin est... La joie est complète. Il y a une expérience dans la vie du croyant de ce qu'est le Seigneur quant à la nourriture pour son âme et puis quant à la joie apportée par le Seigneur. Cela vient de Christ. Alors, tu te réjouiras dans ta fête. C'est pas la fête des Juifs. Tu te réjouis dans ta fête parce que c'est quelque chose que tu vis toi au singulier d'une façon personnelle et à la suite de cette relation vécue avec celui qui est ton Dieu. Mais un peu plus loin, c'est ta fête, mais tu feras pendant 7 jours la fête à l'Éternel, ton Dieu. C'est ta fête, parce que Dieu la partage avec toi, et c'est la fête à l'Éternel, pas le Dieu, mais ton Dieu, un Dieu que tu connais, qui est le tien, avec lequel tu vis. Et tu te réjouiras, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui sont dans tes portes. La bénédiction de Dieu va à tous, du plus petit à celui qui est seul, la veuve, à l'orphelin, celui qui n'a pas de protection, à celui qui est étranger. Et le bonheur que Dieu veut donner, il ne s'arrête pas à toi. il va jusqu'aux autres. Ce n'est pas quelque chose qui est égoïste. Et puis, alors, tu te réjouiras au lieu que l'Éternel aura choisi. C'est un endroit où on se retrouve. Chacun qui a fait le même chemin vient vers le lieu choisi par Dieu, celui vers le centre que Dieu a choisi lui-même. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ta récolte, dans tout l'ouvrage de tes mains. C'est le fruit du travail de Dieu pour toi. Et tu ne seras que joyeux. Comment ne pas être joyeux quand on voit ce que Dieu fait?
Je crois qu'on est arrivé au terme de notre journée. On est bien conscient qu'il y a encore plein de points d'interrogation pour beaucoup. Mais tant mieux, ça va nous aider à relire, à rechercher par soi-même, pour essayer de mieux comprendre ce texte. Et d'essayer justement d'y trouver dans le Nouveau Testament les applications pour notre vie de tous les jours. En tout cas, qu'on peut remarquer, c'est que la vie avec le Seigneur vaut la peine vraiment d'être vécue. Que quand ça va pas très bien, il est encore là pour nous remettre sur le bon chemin, pour que nous puissions retrouver la joie. Une joie qui sera évidemment complète lorsque nous serons tous réunis dans le ciel, c'est clair. Mais ce que nous propose notre Dieu, c'est pas une religion du futur, en disant plus tard, si tu fais ceci ou cela, tu seras heureux. Mais c'est une vie de relation avec une personne vivante qui nous aime, qui l'a prouvé par le don de sa personne et qui veut que nous approchions de lui, pas à vide, justement, dans la suite du texte que Jean-Luc nous disait. On ne paraîtra pas à vide devant l'Éternel. Voilà, il y a des provisions d'amour, de grâce pour nos âmes dans le cœur de notre Dieu, et bien que nous puissions lui offrir ce qu'il nous donne, en tout cas nos vies. Et on pourrait peut-être chanter ensemble.